Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Laurence Dezélé.
Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la demi-finale de handball féminin qui oppose la France aux Pays-Bas. C'est en ce moment même à l'Accor Hotel Arena où vous vous trouvez pour Europe 1. Christophe Lamar, où en est-on ?
18-15 pour la France alors qu'il reste encore 20 minutes à jouer dans cette deuxième période. C'est plutôt bien parti pour les Françaises.
Super, on se retrouve dans un instant. Emmanuel Macron à Strasbourg ce soir au chevet des familles endeuillées et des Strasbourgeois choqués par l'attentat de mardi soir. On partira sur place dans ce journal. Et puis comme tous les soirs, la Bourse avec Didier Hamot, l'invité éco d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Jacques Trottier, le directeur général de l'Abéry. Sans oublier bien sûr les unes de la presse de demain. Europe 1. Emmanuel Macron à Strasbourg ce soir en soutien aux familles frappées par l'attentat de mardi soir. Il s'est entretenu avec les Strasbourgeois, les familles frappées par l'attentat et les forces de l'ordre qui étaient sur le marché de Noël. Il a rappelé pourquoi il était là ce soir.
Je pense que c'était mon rôle en revenant de ce Conseil européen d'être aux côtés des Strasbourgeois et au fond de tous nos concitoyens parce que c'est la France entière qui a été touchée, je dirais même l'Europe. Et c'était à la fois un message évidemment de solidarité, d'amitié, toute la nation, un message de solidarité à l'endroit de nos victimes. Des remerciements à nos forces de l'ordre qui ont sans relâche conduit un travail exemplaire, une coopération exemplaire entre nos militaires, nos policiers, nos gendarmes, nos forces de recherche, de renseignement. Et enfin, c'était aussi un message de vie. Parce que dans ces moments, la vie doit aussi reprendre ses droits, la ville à ce marché de Noël qui fait partie de nos traditions et qui est si important. Et donc c'était là où je devais être.
Emmanuel Macron qui était au micro Europe 1 de Frédéric Michel. D'ailleurs Frédéric Michel, vous êtes toujours sur place. Le président a d'abord tenu à saluer les familles des victimes et puis à saluer les forces de l'ordre.
Effectivement, il y avait beaucoup de monde ce soir, place Kléber et tout autour. Le président est arrivé à 19h devant l'immense sapin de Noël qui brille de mille feux et qui a été rallumé ce matin. Ce qui était frappant, c'est le silence et l'émotion qui a régné pendant cette courte cérémonie. Le chef de l'État a déposé une rose blanche là où des Strasbourgeois ont depuis mardi, jour de l'attentat, déposé des bougies et des fleurs. Après cet hommage aux victimes, Emmanuel Macron est allé saluer et remercier les forces de l'ordre, policiers, CRS, gendarmes, militaires, mais aussi les pompiers et le personnel du SAMU. Il a eu un geste de réconfort pour un policier. Merci pour votre engagement, ce n'est pas fini. La période ne vous ménage pas, répétait le président, prenant le temps de saluer chaque agent. Des policiers applaudis par la population. Le chef de l'État a tenu également à être en contact direct avec les habitants et les touristes. Il a passé près d'une heure sur le marché de Noël, déambulant entre les chalets, serrant de nombreuses mains, acceptant les selfies avec à chaque fois un mot de réconfort.
Oui, bien sûr, pour nous redonner confiance en nous, pour nous faire reprendre goût à la vie de tous les jours et aussi de sentir que toute la police est présente, qu'on se sente en sécurité et qu'il n'y a plus de risque.
Et en ce moment même, le président de la République rencontre en privé des familles de victimes et des victimes directes de l'attentat.
Frédéric Michel à Strasbourg pour Europe 1. Et même si le terroriste a été localisé et tué hier soir par des policiers, l'enquête continue bien évidemment. Les enquêteurs essayent de savoir si Chérif Cherkat a bénéficié de complicité. On en sait d'ailleurs un petit peu plus sur les dernières heures de la traque et sur les circonstances de la neutralisation du terroriste Guillaume Bié.
Oui, et ce qui est clair, c'est que les enquêteurs avaient la conviction que le tueur était toujours dans son quartier du Neudorf. D'abord parce que, d'après nos informations, Chérif Cherkat a été filmé furtivement par une caméra de surveillance hier à la mi-journée dans ce secteur. Et puis autre indice, grâce à l'appel à témoins lancé mercredi soir, les enquêteurs de la PJ ont recueilli 800 appels, notamment ceux de deux personnes qui l'ont croisé dans le quartier. Un voisin qui l'a vu enjamber une clôture et une femme à qui il aurait demander de l'aide. Résultat, ratissage du secteur hier après-midi avec le RAID, la BRI et des hélicoptères en appui. Une grosse agitation policière qui n'a pas permis de le débusquer, certes, mais qui l'a obligé à se déplacer, sentant l'étau se resserrer sur lui. Et lors d'un deuxième ratissage un peu plus tard hier soir, une patrouille de trois policiers du quartier de la BST le repère au pied d'un immeuble. On connaît la suite, Chérif Cherkat tire, les policiers ripostent et le tuent. Alors désormais, c'est l'enquête qui se poursuit. Ce soir, on le rappelle, 7 personnes sont toujours en garde à vue, les parents et les deux frères du tueur, ainsi que 3 membres de son entourage, dont certains sont soupçonnés de lui avoir apporté une aide matérielle, selon nos informations.
Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1. Avant d'aller au chevet des familles frappées par l'attentat de mardi soir à Strasbourg, le président Macron était à Bruxelles aujourd'hui. Il a délivré des messages forts concernant les manifestations des Gilets jaunes. Il demande un retour au calme en France.
Je ne crois pas que notre démocratie puisse accepter de fonctionner avec un dialogue qui ne se fait que par l'occupation du domaine public, que par des éléments de violence, parce qu'ils ne sont jamais maîtrisés. Et donc, en effet, je pense que la raison, le sens de l'intérêt général, conduirait chacune et chacun maintenant à s'inscrire dans un débat national, plutôt qu'à considérer que les revendications ont vocation à changer et à durer dans la rue. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de calme, il a besoin d'ordre, il a besoin de retrouver un fonctionnement normal.
Demain donc, difficile de savoir si les Gilets jaunes se mobiliseront en masse ou pas. Certains appellent plutôt à l'apaisement. Quel est le dispositif qui sera mis en place? Apparemment, ce sera à peu près équivalent à la semaine dernière, Pierre de Cossette.
Oui, près de 11 000 CRS et gendarmes mobiles, notamment à travers la France. 20 blindés de la gendarmerie, ça c'est un peu plus. 14 à Paris toujours, mais 6 en province, à Toulouse, Bordeaux et Marseille. Le dispositif parisien, lui, est sensiblement le même, un tout petit peu plus léger pour les forces mobiles, mais toujours les BAC, les compagnies de sécurité d'intervention, la police des transports, pas de repos pour elles, sauf cas particuliers. Tout le monde a été rappelé, tout le monde disponible samedi matin pour quadriller au mieux la zone, avec comme la semaine dernière, des contrôles préventifs aux abords de la capitale, autorisés par le procureur de la République. Les ajustements les plus notables en réalité concernent la province. Selon nos informations, les services de renseignement tablent sur une mobilisation un peu moindre des Gilets jaunes, mais une grosse présence de militants d'ultra-gauche avec des risques dans les villes qui ont déjà connu des épisodes de violence les précédents week-ends. Le Puy-en-Velay et Saint-Étienne, par exemple, auront droit chacune à leur compagnie de CRS en renfort, ce qui n'était pas le cas le week-end dernier. Il y a un certain nombre d'autres villes également dans lesquelles on redoute des violences, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière.
Merci Pierre de Cossette. On se retrouve dans un instant avec notamment la demi-finale de handball entre la France et les Pays-Bas puisque notre reporter Christophe Lamar suit le match pour nous. Europe 1. C'est l'une des réponses à la crise des Gilets jaunes, défiscaliser le versement d'une éventuelle prime jusqu'à 1 000 euros en laissant le choix aux entreprises. Le Premier ministre Édouard Philippe en a dit un peu plus tout à l'heure à l'occasion d'un déplacement dans le Val d'Oise.
Ce sera une prime totalement défiscalisée, exonérée de toute charge sociale. Et ça veut dire que si un chef d'entreprise décide de verser 350 euros à ses salariés, eh bien ses salariés toucheront très exactement 350 euros. L'idée sera de réserver la défiscalisation de cette prime aux salariés qui touchent moins de 3 600 euros par mois, afin de pouvoir concentrer ces mesures sur nos concitoyens salariés qui ont les rémunérations les plus modestes. Cette prime sera évidemment une prime volontaire. Elle est véritablement exceptionnelle, elle ne vient pas à la place de quelque chose, elle peut venir en plus de quelque chose.
Édouard Philippe qui était au micro Europe 1 d'Olivier Samain. Ces versements sont donc possibles jusqu'au 31 mars pour des salaires allant jusqu'à 3 600 euros net. Il semblerait qu'une vingtaine de grands groupes aient déjà annoncé le versement de cette prime. À Katowice, en Pologne, c'est sur une déception que risque de s'achever la COP24. La 24e conférence sur le climat ne donne rien, même si les discussions se poursuivent encore en ce moment. Personne ne s'engage, comme l'explique Anne Barré de l'ONG Women for Future, à notre envoyée spéciale sur place lors d'Autriche.
On manque totalement d'engagement de la part des États. En particulier, les pays développés ne reconnaissent pas leurs responsabilités et on voit bien que sur la finance, il n'y a pas d'engagement suffisant. Donc on est très déçus de ce côté-là. D'autre part, on avait demandé à ce que les droits humains, l'égalité de genre, les droits des peuples autochtones et les droits des générations futures soient respectés et soient inscrits dans l'accord de Paris, non seulement dans l'accord, mais surtout dans les directives de mise en œuvre de cet accord. Or, c'est beaucoup trop faible. Et donc, nous trouvons qu'il y a vraiment un manque de courage politique de la part des États qui ne s'engagent pas sur cette voie-là.
Anne Barré au micro Europe 1 de l'Ordre d'Autriche. À Millas, près de Perpignan, un millier de personnes réunies cet après-midi devant le collège. Elles ont salué la mémoire des 6 enfants du village tués dans la collision de leur car scolaire et d'un TER. C'était il y a un an. L'édition originale de Du côté de chez Swann de Marcel Proust, vendue aujourd'hui 1,51 million d'euros. C'est un record mondial pour une œuvre originale en français. Cet exemplaire très rare provenait de la bibliothèque de Pierre Berger et s'est vendu chez Drouot à Paris. Un mot de sport avec cette demi-finale donc de handball entre la France et les Pays-Bas qui se joue à l'Accor Hôtel Arena de Paris. Christophe Lamarre est sur place pour Europe 1. Le score en ce moment, Christophe ?
22-17 pour l'équipe de France face aux Pays-Bas. Demi-finale, bien sûr, de ce championnat d'Europe que la France organise. La France qui espère bien sûr rejoindre la Russie en finale. Ce serait une sorte de revanche d'ailleurs parce que, souvenez-vous, lors du match d'ouverture de cet Euro, eh bien, la France avait déjà affronté les Russes et ce sont les Russes qui s'étaient imposés. On avait craint que cette équipe de France ne subisse éventuellement un coup d'arrêt. Eh bien, pas du tout, parce que la voilà en demi-finale. Et non seulement elle est en demi-finale, alors que là, c'est Manon Rouette sur son aile gauche qui est allée tromper la gardienne Tess Wester, la gardienne néerlandaise, et qui permet donc à la France de prendre maintenant un avantage de 6 buts à un petit peu moins de 10 minutes, un petit peu plus, pardon, de 10 minutes, 11 minutes de la fin de cette partie. Autant vous dire très franchement, et ça se voit d'ailleurs à l'attitude des néerlandaises, autant vous dire très franchement que l'équipe de France va rejoindre, sauf immense surprise, va rejoindre cette finale de l'Euro qu'elle organise chez elle. C'était très important pour les Bleus qui jouent en blanc ce soir avec un nouvel arrêt de Laura Glauser, alors que là il y a une joueuse néerlandaise qui est au sol. On va peut-être demander à l'arbitre d'arrêter le match quelques instants. Voilà qui est fait. On va aller se porter évidemment au secours de la joueuse néerlandaise qui est restée au sol. Tout va bien donc pour l'équipe de France qui a un petit peu plus de 10 minutes de la fin de cette deuxième demi-finale. Eh bien, mène avec 6 buts d'avance, 23-17 face aux Pays-Bas.
Merci Christophe Lamarre, on vous retrouve d'ici quelques minutes. La météo, Valérie Darmon, 8 départements de Haute et Basse Normandie sont en vigilance orange, neige et verglas.
Absolument, toute la Normandie sera en alerte orange, neige et verglas à partir de 8h ce samedi matin. Les gelées y seront marquées, les températures négatives, avant l'arrivée de la pluie qui rentrera par l'ouest en deuxième partie de nuit. Les premières précipitations pourront se faire sous forme de flocons ou de neige faible, avec vers le relief des collines normandes quelques centimètres de neige qui tiendront au sol. Météo France attend ensuite un épisode de pluie sur sol gelé ou alors de verglas. Soyez donc prudents si vous devez circuler sur ces routes du nord-ouest, les chaussées seront glissantes. Pour le reste du pays, le ciel sera très nuageux et pluvieux sur la moitié ouest et plus lumineux en allant vers l'est, voire carrément ensoleillé de l'Alsace aux Alpes-Maritimes. Les températures froides le matin, entre moins 7 à Charleville et 6 degrés à Nice, et l'après-midi, entre 1 à Strasbourg et 15 degrés à Brest.
Merci Valérie Darmon. À suivre dans votre journal de la nuit, la bourse avec Didier Hamot et l'invité éco d'Emmanuel Duteil. Il reçoit ce soir Jacques Trottier, le directeur général de l'Abéry. On se retrouve dans un instant.
22h, 22h30, le journal de la nuit.
Laurence Dezelet sur Europe 1.
Et il est 22h14 sur Europe 1, l'heure de faire un point sur la bourse avec vous, Didier Hamot de boursier.com.
Bonsoir Laurence.
Bonsoir Didier.
Alors oui, on est plutôt en baisse hein, ce soir. Le Dow Jones cède 2,02%. C'est une forte baisse. Le Nasdaq recule de 2,26%. Le Dow Jones est à 24 101 points, donc 2,02 de baisse. 2,26 sur le Nasdaq, ça donne 6 910 points. Et les craintes de récession ont grimpé en flèche aux États-Unis ces derniers jours. Ça explique ce fléchissement. Parmi les analystes, on s'inquiète alors que l'économie chinoise aussi s'essouffle fortement, victime de la guerre commerciale entre les deux pays, entre la Chine et les États-Unis. Ça donne un pétrole qui retombe du coup ce soir de 3,5%. Il avait tenté un rebond hier. On est à 51$ le baril. Donc 3,5% de baisse sur le pétrole. Exxon, du coup, perd 2%, 75,60$. Chevron redescend d'1,8%. Royal Dutch d'1,7%. Il y a des dégâts aussi parmi les valeurs de technologie. Amazon corrige de 4%. Apple repère 3,2% à $165,50. Microsoft glisse de 3%, Cisco de 3,5% et IBM limite la casse, moins 0,7%. Même les banques sont secouées puisque Goldman Sachs recule d'1,8%, JP Morgan moins 1,9% et Morgan Stanley moins 2,4%. L'euro retombe à 1,13 face au dollar entre banques.
Et Wall Street termine donc la semaine en forte baisse sur des craintes de fléchissement de la croissance.
Exactement, c'est c'est donc la constatation ce soir avec le Dow Jones qui cède 2,02% et le Nasdaq qui recule de 2,26%. En revanche, le CAC 40 a quand même limité la casse, moins 0,88%, 4 853 points ce soir. Les derniers indicateurs économiques plus mauvais que prévu ont pesé sur la tendance en France, mais aussi en Allemagne, aux États-Unis, en Chine, on l'a vu. Il y a quelques victimes du côté des valeurs industrielles dans ce contexte, en particulier le secteur automobile qui retombe, Valeo, moins 4,1%, Faurecia, moins 3,6%, Renault, moins 2,5% et Peugeot, moins 0,3% à 18,23€. Quelques valeurs industrielles aussi comme Saint-Gobain reculent, moins 2,5% ou Schneider, moins 3%.
Donc la Bourse de Paris a aussi terminé la séance en repli.
Exactement, donc baisse de 0,88%. Il y a quand même une exception aujourd'hui, c'est Pernod Ricard. Pernod Ricard qui résiste en hausse de 0,1%, 148,40€, toujours soutenu par l'irruption dans son capital du fonds américain Elliott. La Bourse reste en alerte malgré le soutien de l'État et l'aide de certains gros actionnaires, dont le groupe Bruxelles-Lambert, qui détient 7,5% du capital de Pernod Ricard et soutient donc la stratégie du groupe spiritueux. Sur la semaine, le titre Pernod Ricard a gagné 8%, proche des 150€. On est au plus haut historique sur le titre Pernod Ricard, donc c'est vraiment l'exception du jour. Sur les autres places financières, pour terminer, eh bien le DAX 7,05% à Francfort, Bruxelles moins 0,5% aussi, Madrid moins 0,4%, ça glisse de 0,7% à Milan. Et on rappelle, pour finir, le CAC 40 en baisse de 0,88%, 4854 points.
Merci Didier Hamo de boursier.com. Et bien sûr, vous retrouverez la bourse lundi soir sur Europe 1. Europe 1, il est 22h18, l'heure du rendez-vous éco avec Emmanuel Dutheil et son invité Jacques Trottier. Jacques Trottier qui est directeur général de l'Abéry.
Bonsoir Jacques Trottier.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de l'Abéry. L'Abéry, c'est bien évidemment l'un des premiers dans le monde du foie gras, mais également dans les produits de la mer avec notamment le saumon. Si on a eu envie de vous inviter, c'est pas très très original. Il paraît que c'est Noël dans 10 jours, mais un Noël quand même un petit peu particulier avec notamment cette crise des gilets jaunes. Déjà de façon très pragmatique, est-ce que vous avez été victime des blocages et des manifestations qui peuvent avoir lieu ?
Alors vous avez raison de dire que pour l'Abéry, c'est un moment important parce que comme vous le savez, on va avoir quasiment 50% de notre activité du saumon fumé et près de 75% de notre activité annuelle foie gras qui va être vendue, consommée dans cette période de fin d'année. Donc c'est un moment important. Et effectivement, dans ce moment important, comme tous nos concitoyens, des barrages ont eu lieu sur les routes. Donc il y a pu y avoir quelques perturbations au niveau de nos livraisons. Ce qu'on s'efforce de faire chez l'Abéry, c'est effectivement de faire en sorte que l'ensemble de la marchandise puisse être livrée.
Quelques perturbations, ça veut dire rien de dramatique.
Alors, ça veut dire qu'on a la chance de livrer ça sur plus de plusieurs semaines. Et donc, les retards qui ont été enregistrés pour l'instant, on espère les récupérer cette semaine. Ça dépendra bien évidemment de l'évolution de la situation.
Oui, parce que vous, finalement, tout commence à se jouer maintenant. On ne va pas acheter notre saumon fumé 6 mois à l'avance. Le foie gras, peut-être qu'on peut l'acheter un petit peu plus tôt, mais c'est vraiment là, dans les derniers jours, qu'on va aller faire les courses alimentaires. Donc vous, rien n'est encore perdu et vous n'avez pas été trop impacté par ces moments compliqués.
En magasin, pour les consommateurs, pour leurs achats de Noël, ça va se passer dans les 15 jours qui viennent.
Quelle est la tendance un petit peu de ce Noël ? Parce qu'à un moment, on a presque oublié que Noël allait arriver. C'est là, dans 10 jours, ça y est, on y est. Qu'est-ce qu'on va retrouver autour de la table ? Qu'est-ce que vous nous avez préparé de différent ?
Alors, vous savez que sur le saumon fumé et le foie gras, chaque année, la fin d'année est un moment qui est attendu par nos consommateurs parce qu'on est un peu dans un effet de collection. Chaque année, on doit apporter des produits nouveaux. Par exemple, sur le saumon fumé, cette année, on a toute une gamme de produits de fondants de saumon avec des tranches un peu plus épaisses qu'on a aromatisées avec des graines de sésame pour apporter une texture en bouche, pour apporter une expérience du saumon fumé différente. Et puis sur le foie gras, par exemple, il y a une tendance qui se développe beaucoup, c'est le fait à la maison. Donc on offre des produits de foie gras fait à la maison sur lesquels le consommateur ou la consommatrice va pouvoir se réapproprier la préparation de son foie gras, mettre le sel, le poivre, faire la cuisson finale pour avoir un produit, c'est moi qui l'ai fait quelque part.
Et ça marche ?
C'est un très beau succès sur cette fin d'année. On a beaucoup de commandes de la part de nos magasins, donc on attend avec impatience l'accueil de nos consommateurs sur ces prochains jours.
Comment on se dit chez l'Abéry, il y a quelques mois, puisque bien évidemment vous avez, j'imagine, préparé Noël il y a un gros bout de temps maintenant, tiens, cette année, le thème, ça va être d'avoir du fondant au niveau du saumon. C'est que vous avez vu que ça se passait un petit peu comme ça dans les autres pays du monde, que la tendance montait, vous avez vu que vos concurrents le faisaient. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit, tiens, allez, on va leur faire manger ça ?
On écoute beaucoup nos consommateurs, c'est surtout ça. Hein. On écoute beaucoup, on fait beaucoup d'enquêtes, on les interroge, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient comme nouveaux produits, quelles sont les grandes tendances. Et puis on regarde aussi sur d'autres marchés alimentaires, on regarde aussi ailleurs ce qui se passe. Et c'est dans cette pratique-là, je vous parlais du saumon fait, du foie gras pardon, fait à la maison. C'est quelque chose qui est apparu sur de nombreux marchés alimentaires et qui nous paraissait intéressant de revisiter sur le foie gras.
Est-ce que la Berry, ça fait partie de ces marques terroirs qu'on connaît tous, qui font bien françaises, mais 40% des ventes se passent à l'international? C'est un groupe très tourné vers au-delà de nos frontières.
Oui, on a la chance effectivement d'avoir sur beaucoup de produits une consommation de ces produits un peu partout en Europe. Mais c'est vrai que la France reste le symbole de la gastronomie. Alors c'est pour ça qu'on a une grosse partie de nos ventes qui est faite en France. Mais c'est aussi la symbole de la gastronomie à l'étranger. C'est pour ça que j'ai envie de dire la Friend Touch Food est quelque chose qui fonctionne très très bien un peu partout dans le monde.
Alors il y a beaucoup de questions qui se posent sur le mieux manger en France et sur l'idée d'une traçabilité toujours plus aiguë, de savoir tout simplement d'où viennent nos produits. Il y a eu pas mal de polémiques, hein, notamment sur le saumon ces dernières années. Là encore, de façon très pragmatique et très concrète, il vient d'où le saumon vendu par la Berry?
Alors le saumon vendu par la Berry, nous allons chercher ce saumon en Norvège, en Écosse, en Irlande. Et puis nous allons aussi chercher ce saumon en Alaska ou sur les côtes de Sibérie pour le saumon sauvage. Donc sur les zones qui sont particulièrement adaptées au saumon et qui nous permettent d'avoir les meilleurs saumons du monde.
Alors ça ne va pas passer à Noël par ailleurs, mais les règles vont évoluer pour les promotions en France. C'est le résultat de ce qu'on appelle les états généraux de l'alimentation. Alors ça aurait dû entrer en vigueur au 1er janvier, il y a eu un petit bug technique, mais je pense que les gilets jaunes ont joué également pour beaucoup là-dessus, puisqu'on n'allait peut-être pas arrêter les promotions au moment où tout le monde dit qu'ils n'ont pas assez de pouvoir d'achat, mais force est de constater qu'a priori, à partir du mois de février, c'est plus possible de faire un acheté, un offert. Donc les prix vont mécaniquement augmenter, pour vous aussi?
Alors, on attend, comme tout le monde, les ordonnances, parce que les modalités précises...
Ça se précise, elles sont passées mercredi en Conseil des ministres, donc on commence à avoir une idée.
Oui, mais il nous reste encore beaucoup de détails à voir là-dessus. Les promotions ne vont plus être interdites, elles vont être simplement encadrées d'une certaine façon. Donc, charge à nous, avec les distributeurs, de voir comment...
De façon très simple, pour que nos éditeurs comprennent, on avait tous vu dans nos magasins, et vous l'avez sûrement fait chez la Berry, un produit acheté, un produit offert. Maintenant, ce sera au minimum deux achetés, un offert. Vous ne pourrez pas aller plus loin que ça.
En tout cas, les promotions ne pourront pas dépasser 34% de la valeur du produit.
Voilà.
Tout à fait.
Donc les prix vont monter.
Pas forcément, parce qu'il y a aussi d'autres façons de faire de la promotion. On peut faire circuler nos consommateurs à travers nos offres, à travers nos gammes, offrir de nouvelles façons de faire de la promotion. Donc on va être obligé de se réorganiser avec nos clients distributeurs pour offrir une nouvelle façon de mettre en avant nos produits.
Est-ce que vous trouvez que malgré tout, ces dernières années, la grande distribution vous a un peu trop tordu le bras? La plupart des industriels qui viennent ici autour de cette table nous disent « on n'arrive pas à faire passer des hausses de prix, à chaque fois ils demandent toujours moins cher, à chaque fois ils nous tordent le bras ». Vous avez mal au bras, vous aussi, du côté de la Berry?
Écoutez, on a la chance d'avoir une distribution française qui est très professionnelle.
Vous ne voulez pas vous fâcher, vous,
hein? Non, c'est pas que je ne veux pas me fâcher, mais qui est très, 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 très exigeante. On a surtout la chance d'avoir une très, très belle marque qui peut-être, rééquilibre un petit peu le rapport de force qu'on peut avoir avec les distributeurs.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'un Leclerc, un Carrefour ou un Casino ne peut pas ne pas avoir de la Berry dans ses rayons à la fin de l'année. Et donc, vous pouvez leur dire, t'es gentil, mais c'est ça ou c'est rien?
En tout cas, je pense qu'il y a une attente forte de la part des consommateurs sur notre produit, sur notre marque, sur la qualité de nos produits. Et c'est vrai que ça joue aussi dans le type de relation qu'on peut avoir avec les distributeurs français.
Et je rappelle que vous êtes le directeur général de la Berry. Là encore, l'actualité de la semaine, c'était de demander aux entreprises de donner une prime à leurs collaborateurs. Alors, plusieurs très, très grosses entreprises ont annoncé qu'ils allaient donner des primes. Mais bon, quand on gagne des milliards d'euros, c'est toujours plus simple. Vous, du côté de chez la Berry, vous regardez à donner une prime?
La redistribution, quelque part, de la richesse, on pourra l'opérer qu'à partir du moment où on aura fini l'année. Et nous allons finir notre année au mois de juin l'année prochaine. Donc, ça sera effectivement un sujet de discussion avec nos partenaires sociaux lorsqu'on aura nos résultats.
Mais en tout cas, pas obligatoirement tout de suite.
Voilà, ça sera
vous allez d'abord voir si Noël va bien se présenter.
Si Noël va bien se passer, et puis nos résultats de l'année complète. Et l'année complète se finit au mois de juin.
Mais là, Noël, vous êtes toujours confiant pour vendre un petit peu plus qu'à Noël dernier? C'est quand même le but.
Nous avons pour l'instant en tout cas des commandes de la part de nos clients qui devraient faire que nous aurons des ventes qui seront supérieures à celles de l'année dernière.
Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Un grand merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Jacques Trottier à la tête de la Berry. On se retrouve lundi sur Europe 1. Bonne soirée.
C'était l'invité éco d'Emmanuel Duteil. Vous pourrez bien entendu réécouter cette interview sur le site europe1.fr. Restez avec nous dans un instant. On va jeter un coup d'œil sur les unes de vos journaux de demain. A tout de suite. À la une de la presse demain, l'acte 5 bien évidemment des Gilets jaunes. Combien seront-ils dans les rues de France? Certains veulent à nouveau une grosse mobilisation, d'autres sont plutôt pour l'apaisement de la situation. Le gouvernement plaide pour un arrêt des mobilisations. Plusieurs journaux essayent donc demain de tout vous expliquer sur ce mouvement. Libération titre « Tout ce que vous avez voulu savoir sur les Gilets jaunes ». Le journal indique que demain ce sera donc l'acte 5 et que les journalistes vont répondre aux mille et une questions que tout le monde se pose. Comment le mouvement est-il organisé? Combien y a-t-il eu de victimes? À qui vont profiter les mesures annoncées par Macron? La cellule Check News de Libération a déjà répondu apparemment à plus de 170 requêtes parmi toutes celles qui lui ont été envoyées. Le journal pour enfants Petit Quotidien tente aussi d'expliquer aux plus jeunes ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes en répondant de façon accessible à plusieurs questions. Et puis le journal La Croix choisit alors un tout autre sujet et s'intéresse au conflit israélo-palestinien. Un journaliste raconte 5 jours au sein de l'enclave de Tekoa. Ça se trouve en Cisjordanie. C'était quelques-unes des journaux de demain. On va tout de suite prendre la direction de l'Accor Hôtel Arena où Christophe Lamar a suivi pour nous la demi-finale de l'Euro féminine de handball. Christophe, où en est-on?
Eh bien, qualification de la France qui rejoint donc la Russie en finale. Les Françaises avaient fait de cet Euro l'une de leurs priorités, évidemment. Elles ont fait du titre européen la priorité des priorités. Elles ne sont plus qu'à une marche, évidemment, d'accéder à leur rêve. Les Françaises qui ont battu les Néerlandaises 27-21, un match qu'elles ont totalement maîtrisé, notamment en deuxième période, grâce, il faut bien le dire quand même, aux deux gardiennes qui se sont succédées dans la cage, Laura Gloser et Amandine Lénaud. Mais dans le champ, c'était pas mal non plus. On pense notamment à Estelle Nzeminko. 6 buts ce soir pour la demi-centre à 100% de réussite. Si la France est championne d'Europe, nul doute qu'elle sera probablement élue meilleure joueuse du tournoi. La France qui rejoint donc la Russie en finale dimanche. Victoire des Bleus en demi-finale face aux Pays-Bas, 27-21.
Merci beaucoup Christophe Lamar du service des sports d'Europe 1. On souhaite bien sûr le meilleur aux Françaises pour la suite. Et tout de suite, on retrouve Sophie Peters et la Libre Antenne.